7h50, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est ancienne ministre de l'Enfance, des Familles et des Droits des Femmes.
Bonjour Laurence Rossignol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous auriez signé la tribune des 100 femmes, titrée « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ». Est-ce que vous l'auriez signée? Elle est parue hier dans Le Monde.
Bien sûr que non.
Pourquoi?
Cette tribune, non seulement je ne l'aurais pas signée, mais si j'avais même eu l'occasion d'en discuter avec une femme comme Catherine Deneuve, qui, je le rappelle, était une des signataires du manifeste des 343 salopes en défense de l'avortement, qui a été une femme courageuse et qui a une place dans le combat féministe des 50 dernières années, j'aurais essayé de lui expliquer que non seulement c'était une gifle, cette tribune est une gifle à l'encontre de toutes les femmes qui dénoncent la réalité de ce qu'est la prédation sexuelle, mais qu'en plus, elle ne rend pas non plus service aux hommes. Elle ne rend service qu'aux prédateurs, parce que la majorité des hommes que je connais ne veut plus être associée à ceux qui mettent la main aux fesses des filles dans le métro, insultent les femmes, celles qui leur se refusent à eux. Et donc, ces femmes... Alors, par ailleurs, je les connais, certaines d'entre elles. On a là un classique regroupement des antiféministes patentées qui pensent que la domination masculine n'existe pas. Les défenseuses du lobby des clients de la prostitution, qui s'étaient déjà, pour certaines d'entre elles, exprimées.
Donc, en fait, vous auriez pu signer la contre-tribune parue
oui.
ce matin
oui, oui.
des 30 femmes qui répondent aux 100 femmes emmenées par Caroline Dehas et qui accusent Catherine Deneuve, Catherine Millet, Ingrid Cavan, Elisabeth Lévy, toutes celles qui ont signé la tribune du Monde, qui les accusent d'utiliser leur visibilité médiatique pour banaliser les violences sexuelles et faire l'apologie du viol.
Oui, oui,
vous diriez ça ?
Je dirais que...
Vous diriez que Catherine Deneuve fait l'apologie du viol ?
Je dirais, mais qu'est-ce que Catherine Deneuve est allée faire dans cette galère ? Voilà. Pour le reste, ne concentrons pas sur Catherine Deneuve, concentrons-nous sur qu'est-ce qui amène des femmes, alors qu'il se passe des choses quand même qui sont importante, révolutionnaire en matière de libération et de la parole et de l'écoute des femmes. Qu'est-ce qui peut amener 100 femmes qui ont de la visibilité médiatique à signer? Qu'est-ce qu'elles envoient comme message en signant ça?
Alors, prenons les termes de cette tribune les uns après les autres. Je vais vous faire réagir sur ce qu'elles disent, parce qu'il faut la lire quand même, la tribune, et regarder ce qu'elles disent précisément. Voyons ce qu'elle dénonce. La libération de la parole des femmes était nécessaire, disent-elles. Mais là, ça va trop loin. On nous intime maintenant de parler comme il faut, de taire ce qui fâche. Elle dénonce un féminisme qui exprime une haine des hommes, parle d'un retour au puritanisme et même d'un climat de société totalitaire. Les mots sont forts.
Oui, les mots sont forts. La question du puritanisme n'est pas une question anodine. Et c'est vrai que nous, les féministes qui défendons l'égalité dans la sexualité, nous ne sommes pas dans le camp du puritanisme. Et d'ailleurs, elles auraient été mieux inspirées à poser la question du désir des femmes dans le débat que nous avons aujourd'hui. Ce qui me frappe, c'est qu'au nom de la résistance, de l'inquiétude contre le retour de l'ordre moral, cette tribune défend en réalité un ordre classique, traditionnel dans la sexualité, qui est celle qui est fondée sur une représentation des sexualités masculines et féminines, différenciées, avec des rôles différenciés. L'homme est le conquérant, la femme est la proie. On parle de...
C'est-à-dire que quand elles affirment, elles écrivent dans la tribune, dans la même journée, une femme peut diriger une équipe professionnelle et jouir d'être l'objet sexuel d'un homme sans être une salope ou une vile complice du patriarcat, vous dites non. On peut pas penser comme ça.
Bon, une femme peut diriger une équipe et avoir la sexualité qu'elle désire avec la répartition des rôles qui est la sienne et qui est une affaire totalement intime. En revanche, je ne crois pas que les femmes puissent accéder à l'égalité tant qu'elles continuent d'être vues comme des objets sexuels, ce que nous avons envie de dire. Ces femmes écrivent « continuer de nous désirer, de nous regarder ». Mais de quoi ont-elles peur? Quel est ce vide qui les inquiète, existentiel? Quelle est la place
d'une société,
du regard
peut-être,
des...
Peut-être, je ne défends pas, moi je relais ce qu'ils disent, peut-être une société très puritaine où le moindre regard sera sanctionné, où la moindre phrase sera déplacée, où tout sera jugé.
Oui, dans la sexualité telle qu'elle est représentée, il n'y a pas de place, il n'y avait pas de place pour le désir et le plaisir des femmes. La sexualité était une sexualité au service de l'homme. L'homme aurait une sexualité irrépressible, des besoins à satisfaire, et les femmes devraient satisfaire leurs besoins. D'ailleurs, on parle toujours en ce moment, un des angles morts de la discussion qu'on a depuis 2 mois, c'est la question du désir des femmes. On parle de leur consentement, c'est-à-dire qu'on les laisse dans une situation passive. Mmh. Mais quelle est la place de dire ? Moi, je crois que nous avons tout à gagner à ce que le désir des hommes ne s'exprime pas de cette manière aussi brutale, aussi envahissante, pour laisser de la place au désir. Laissez-moi juste finir. Ouais. Il faut laisser de la place au désir des femmes. Où est-ce qu'ils s'expriment ? Et puis les hommes ne subissent pas notre désir aussi envahissant. Mais pour autant, ils existent. Ils n'ont pas, pas d'inquiétude sur leur rapport aux femmes. Et nous savons...
Assertion, pardonnez-moi, il faut admettre que la pulsion sexuelle est par nature offensive et sauvage et que cette fièvre à envoyer les porcs à l'abattoir fait qu'on confond une drague maladroite avec une vraie agression sexuelle. Mais est-ce que ce n'est pas le risque ?
L'idée que la pulsion sexuelle serait par nature brutale et sauvage, c'est l'idée que la pulsion sexuelle des hommes... Elle ne parle que de la sexualité des hommes.
Une pulsion sexuelle de femme ne peut pas être offensive et sauvage.
Voilà, la pulsion sexuelle
des... C'est pas possible, Laurence Rossignol ? Une pulsion sexuelle féminine ne peut pas être offensive et sauvage ?
Elle peut être offensive et sauvage dans un cadre intime, mais dès lors que nous posons cette question comme une question sociale et politique, de la question sexuelle devient une question sexuelle et politique, le désir des femmes ne se manifeste pas dans la sphère publique comme étant un désir sauvage. En revanche, il faut laisser toujours de la place, et c'est ce qu'elle demande, à la pulsion des hommes. Et c'est celle qui justifie le viol, la prostitution, l'achat de services sexuels et toute la violence sexuelle. Et c'est ce que nous contestons, c'est l'idée qu'il faudrait laisser aux hommes cette sexualité. Je ne défends pas cette sexualité, je défends une sexualité fondée sur le désir et le plaisir des femmes qui a toujours été absent des représentations pendant des décennies.
Quand elle parle des conséquences de cette libération de la parole des femmes dans l'art, Blop d'Antonioni jugé sexiste, Carmen de Bizet qu'on modifie à la fin parce que Carmen est victime de la violence des hommes, des tableaux de Balthus, des affiches d'Egon Schiele qui sont demandées d'être retirées, d'être censurées. Est-ce que c'est pas le risque ? Est-ce que c'est pas inquiétant quand la morale s'invite dans l'art ? Est-ce que c'est pas précisément le lieu où la morale ne doit pas rentrer ?
Bien sûr, je crois qu'effectivement, l'art est le lieu dans lequel la morale ne doit pas rentrer. Je pense par ailleurs que c'est une manipulation que de leur part que d'établir un lien entre la libération de la parole des femmes et de l'écoute de cette parole et le retour de l'ordre moral. Et ce que je leur dis surtout, c'est qu'elles incarnent l'ordre moral traditionnel, celui de l'homme conquérant et de la femme soumise et disponible. Et cet ordre moral-là, les féministes aujourd'hui doivent le contester et faire rentrer davantage dans le débat actuel la question de l'émergence du désir et du plaisir des femmes comme question politique et collective.
On n'a pas fini d'en parler. Merci Laurence Rossignol. Merci. Belle journée à vous.
Et merci Léa.